France Inter. Le 7-9.
Il est 7h50, Léa Salamé. Votre invité ce matin est chimiste, toxicologue. Il est l'auteur de l'ouvrage Les perturbateurs endocriniens en accusation. C'est aux éditions Les Petits Matins.
Bonjour à vous André Cicolella et merci d'être avec nous ce matin.
Bonjour.
C'est une tendance qu'on pressent depuis quelques années et qui vient d'être confirmée par un chiffre ahurissant dans le bulletin épidémiologique de l'Agence sanitaire Santé publique France qui nous a fait sursauter en début de semaine. La qualité du sperme a chuté de 32% entre 1989 et 2005. C'est-à-dire qu'il y a 32% de moins de concentration de spermatozoïdes dans le sperme ces 30 dernières années. Comment est-ce possible ? À qui la faute ?
Bonne question. C'est un phénomène qui est mondial maintenant. Il y a eu deux méta-analyses publiées l'an passé qui donnent en gros 50 à 60% de baisse au cours des 50 dernières années. Donc il n'y a plus de discussion. C'est pas seulement les pays développés. On observe ça maintenant en Asie notamment. Donc voilà, c'est un phénomène mondial. Donc les causes sont aussi mondiales. Et donc là, la principale explication, ce sont les perturbateurs endocriniens. Parce que là, on a des preuves expérimentales. Vous donnez du bisphénol A à des rates gestantes, vous faites de l'infertilité, baisse de la qualité du sperme chez les fils, les petits-fils et les arrière-petits-fils.
Sur trois générations.
C'est un phénomène sur trois générations. C'est ce qu'on appelle la modification de l'épigénome. Donc on a là un phénomène qui s'étend et qui a commencé en fait il y a 50 ans, 60 ans à peu près.
Oui, mais vous êtes sûr qu'il y a un lien avec les perturbateurs endocriniens?
Il y a une très forte probabilité.
Les auteurs. Les auteurs disent cette baisse de la qualité du sperme, on n'arrive pas à l'expliquer vraiment par une cause. Ils parlent notamment de la pollution atmosphérique, du tabac.
En partie.
Pas seulement les perturbateurs endocriniens.
Le tabac est aussi un perturbateur endocrinien sous certains aspects. Effectivement, comme toujours en santé environnementale, c'est multifactoriel. Donc après, il faut regarder effectivement qu'est-ce qui émerge dans tous ces facteurs. Mais on a la réponse quand on regarde l'expérimentation animale. Voilà. Ce qui est observé, c'est la souris chez le rat, est tout à fait transposable à l'humain.
Et alors, qu'est-ce qui est observé clairement chez le rat ?
Ben voilà, je vous donne cet exemple, cette étude, mais il y en a d'autres. On a des effets de mélange aussi. On a aussi des observations chez l'humain. Les phtalates, grande famille, très présente dans notre environnement. Récemment, j'ai trouvé un article saoudien qui a analysé 47 parfums. Ils ont fait venir 15 parfums de France, notamment des parfums célèbres, Chanel numéro 5, J'adore, de Dior. Ouais. C'est bourré de phtalates.
Alors c'est quoi le phtalate ?
C'est des perturbateurs endocriniens.
Oui. Et pourquoi c'est mal ?
Les phtalates, c'est comme le bisphénol. Vous avez tous les effets liés à une exposition pendant la grossesse. Les effets, vous avez effectivement cancer du sein notamment. Vous avez effectivement, on parle de syndrome des phtalates pour ce qui est justement l'impact sur la reproduction. On parle de syndrome des phtalates. Le DEHP, qui est le plus toxique, supprime le pic de testostérone. C'est quand même gênant. Parce que la testostérone, c'est ce qui sert à faire les mâles. Ouais. Et on observe une féminisation des garçons. On a une étude de 2005 qui a été effectivement vérifiée par une autre étude en 2017 aux États-Unis, mais il y a d'autres études, notamment en Suède, qui montrent effectivement une féminisation des garçons.
Ça veut dire quoi, pardon, une féminisation
des garçons ? Féminisation des garçons, ça se mesure par ce qu'on appelle la distance anogénitale, c'est un peu technique,
ouais.
Qui, chez les mâles, en toutes les espèces, est plus important que chez les femelles. À partir du moment où cette distance se réduit, les garçons deviennent de plus en plus, ressemblent de plus en plus à des femmes. Voilà. Donc, est-ce que c'est gênant en soi ? C'est un problème philosophique.
La question n'est pas philosophique, elle est scientifique.
Ça traduit une contamination générale et des effets qui sont plus larges que ça.
Donc, les garçons ressemblent de plus en plus aux filles à cause du plastique, à cause des crèmes hydratantes, à cause du parfum, à cause de tout cela ?
Autre source de contamination, l'alimentation. L'ANSES a publié l'étude de l'alimentation infantile. On a, pour certains aliments, une contamination à 100%. Et on a même une donnée, voilà, les petits pots. Alors, les gens achètent des petits pots en disant ça va être le mieux, le nec plus ultra. S'ils ont été effectivement préparés dans des coupelles en plastique, ils sont trois fois plus contaminés par les phtalates que s'ils ont été préparés dans des coupelles en verre. Voilà, ça, c'est une donnée.
Donc, quand on achète pour un bébé, par exemple, un produit bio.
Alors, le bio, là, c'est bien parce que là, vous n'avez pas les pesticides.
Mais qui est dans du plastique.
Si c'est du bio dans les plastiques, alors là, vous avez tout faux parce que vous avez effectivement du bio avec des phtalates. Ça, c'est pas une bonne chose.
Donc, il ne faut plus rien acheter qui est dans
un plastique. Il faut surtout qu'on ait des aliments qui ne soient pas contaminés par les phtalates ou par les autres, perturbateurs endocriniens. Vous voyez, le bisphénol, on a obtenu l'interdiction des biberons.
À l'origine, notamment.
Oui, c'est nous qui avons lancé cette opération. On a gagné. Ça a été étendu à l'ensemble de l'Union européenne, puis ça s'est arrêté aux frontières de l'Union européenne. C'est totalement absurde. On sait faire des biberons sans bisphénol. C'est une source de contamination importante. On a obtenu l'interdiction dans les boîtes de conserve. C'était la contamination importante aussi de la mer. Bon, là, ça s'est arrêté en France. L'Union européenne n'a pas élargi. Oui, totalement absurde.
Mais pardonnez-moi de vous poser la question. Est-ce que vous achetez des yaourts dans des...
Non, évidemment non. J'essaye d'être cohérent avec ce que je dis. Parce que,
j'ai peu de
chance d'être enceinte, voyez, donc, et de contaminer.
Mais c'est uniquement pour les femmes enceintes?
Mais la principale caractéristique des perturbateurs endocriniens, c'est l'exposition pendant la grossesse. Et notamment au début de la grossesse, pendant les 6 semaines où se forment les organes. Et ça va jouer sur la santé de l'enfant, hyperactivité par exemple, mais sur le long terme, cancer du sein, cancer de la prostate. Mmh. Et puis, il va transmettre à ses descendants. Vous voyez, c'est un enjeu considérable. Il y a eu un progrès des connaissances scientifiques dans ce domaine au cours des 30 dernières années qui est considérable. Le problème, c'est que notre réglementation, elle est basée sur les concepts d'il y a 50 ans. Ouais. Alors moi, je veux bien continuer de dire que la Terre est plate, mais bon, à un moment, il faut constater qu'elle est ronde et qu'on est tous d'accord.
D'accord,
sur
mais
ça.
Il y a quand même quelque chose qui semble totalement inéluctable, inextricable.
Non, pas du tout.
Si, parce que par exemple, quand je mange, imaginons que je suis enceinte, je mange une pomme bio, donc ça va jusque-là, mais le couteau avec lequel je la coupe peut avoir des perturbateurs endocriniens.
Ça dépend,
l'assiette peut avoir des perturbateurs endocriniens. Mais donc, on fait quoi?
Eh bien, on fait une politique de santé environnementale. Et ça, on vit sur l'illusion que la santé, c'est un système de soins. Voilà. Ben c'est, effectivement, il faut soigner les gens quand ils sont malades. Mais il faut faire en sorte qu'ils soient le moins malades possible. On va pas supprimer la maladie. Mais on fait
alors,
le moins malade possible.
Alors, dites-nous, pardonnez-moi de revenir à du concret, mais c'est dans du concret. Qu'est-ce qu'on fait chez nous? Est-ce qu'on renonce aux casseroles? Parce qu'il y en a. Est-ce qu'on renonce au vernis à ongles? Est-ce qu'on renonce aux couches? Est-ce qu'on renonce
aux ongles sans phtalate? Parce que ça, c'est une source de contamination. Des shampoings sans phtalate, sans perturbateurs endocriniens. Mais ça se fait, regardez, sans parabène. C'est devenu même un argument publicitaire. Ben, c'est très bien. On sait faire. C'est pas très compliqué.
Hmm. Benoît Hamon les avait mis en avant dans sa campagne présidentielle il y a un an. Puis a eu, en décembre dernier, la fameuse définition qui a été établie de longue lutte par l'Union européenne, par la Commission européenne, sur ce que c'est les perturbateurs, sur ce que sont les perturbateurs endocriniens. Depuis, qu'est-ce qui a changé depuis quelques mois?
Alors, on avait obtenu une stratégie nationale perturbateurs endocriniens, qui a été évaluée par les inspections générales, en disant c'est très bien, bilan très positif. On attend la deuxième phase. Là, j'ai quelques inquiétudes. J'ai quelques inquiétudes parce que, vous voyez, on devait avoir la réunion hier, elle est décalée au 24 juillet. Alors, quand on commence à faire des réunions fin juillet, et quand le responsable du groupe Santé Environnement, l'ancien député Gérard Bapt, est limogé, moi j'utilise ce terme, hein, il a été nommé il y a 4 mois, et là on lui dit de céder la place. Ça, je n'aime pas trop ce genre de... Je suis un peu suspect sur ce que la signification, effectivement,
pourquoi
de ce qu'il a déjà
présenté. Pourquoi il a été limogé? Quelle a été l'explication?
Ah, écoutez, officiellement, on lui demande de céder la place. Bon, ouais, donc... Il n'y a pas d'autre explication. Enfin, ceci étant, il n'y avait aucune raison. Il avait été renommé il y a 4 mois.
Qu'est-ce que vous demandez à Nicolas Hulot?
Je demande à Nicolas Hulot
une du Parisien aujourd'hui.
De ne pas céder sur la pression qu'il doit avoir, en fait. Hein, parce que qu'est-ce qui s'oppose, en fait, en Europe, à une véritable stratégie? C'est la chimie allemande. Voilà. C'est ça l'enjeu. Bayer, comme Bayer, BASF. Les fabricants de bisphénol, c'était Bayer, BASF. Hein.
Qui avait d'ailleurs réussi à bloquer au Parlement européen la définition.
On a réussi à les faire reculer, vous voyez, quand même. Ouais. On peut arriver. Ah oui, et puis il faut les faire reculer aussi sur l'ensemble. Il faut réinventer la chimie, la refonder sur des procédés sains qui ne contaminent pas la population.
Mais c'est un sacré challenge. Est-ce que les grands laboratoires chimiques changent déjà?
Bien sûr, la prise de conscience se fait. Vous voyez, je suis invité au Congrès mondial de la chimie l'an prochain. Vous voyez, on va parler chimie société. Donc, je vais essayer de développer cet argument que la chimie n'est pas le problème, mais c'est la solution. Moi, je suis chimiste. J'ai un conflit d'intérêts parce que je trouve que les chimistes sont des gens très bien. Donc, mais il faut effectivement qu'on leur pose des vraies questions pour qu'ils apportent des vraies réponses.
Si on ne fait rien, qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans?
Si on
ne
fait rien,
ans.
C'est ce qui se passe actuellement. Les maladies chroniques explosent. Voilà. Ça coûte un pognon fou, hein, pour reprendre
pognon
l'expression.
De dingue. Soyez précis.
De dingue. C'est pareil.
Soyez précis quand vous citez.
Ça coûte un pognon de dingue et il faut s'attaquer à ce problème.
Et
voilà.
Pourquoi vous n'avez pas bu une petite goutte d'eau là? Vous avez une bouteille devant vous.
C'est une source de contamination, en fait.
C'est-à-dire la petite bouteille en plastique. Oui. Donc vous buvez quelle eau, en fait?
Quand j'ai vraiment très soif et je n'ai pas d'autre choix, c'est ce que je bois. Parce que,
et voyez, sinon, c'est quoi? L'eau du robinet, c'est quoi?
L'eau du robinet, c'est pareil. Alors
vous faites quoi? Vous ne buvez plus d'eau?
Le problème, c'est que vous...
Vous voulez une boisson gazeuse en canette aluminium ou pas?
Aluminium n'a pas de problème.
Oui. Ah bah, non, mais comment vous...
Quel mais il y a du vous... problème
non, attendez,
avec le faux sucre.
Quelle eau vous buvez?
La question, c'est d'avoir une eau qui soit avec des normes, qui soit basée sur les connaissances scientifiques d'aujourd'hui.
Oui, mais ça veut dire quoi en français?
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, pour savoir qu'est-ce que c'est qu'une eau potable aujourd'hui, il faut faire le travail pour dire, voilà, les normes, on va les définir sur les connaissances scientifiques d'aujourd'hui.
Bon, on n'est pas sorti de l'auberge. J'ai toujours pas compris quelle eau je devais boire.
Mais... C'est une révolution de la santé, si vous voulez. C'est ça le problème.
Bon, André Sicolella, vous nous avez déprimés.
Non, pas du tout.
Mais merci quand même et je vous souhaite une très belle journée.
Et longue vie, hein, si c'est encore possible.